With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut Cénociné, votre rendez-vous avec le cinéma qui aujourd'hui va faire dans l'œcuménisme le plus total, puisque s'il y a bien un réalisateur dans ce bas monde qui met la plupart des cinéphiles d'accord de façon régulière depuis plus de 40 ans, c'est Martin Scorsese, ce bon vieux Martin qui nous revient en ce morne mois de février avec Silence, drame historique qui va nous occuper durant les 20 prochaines minutes grâce au duo d'apôtres du 7e art réunis ici autour de la table à l'antenne Paris, David Honoras. Salut David.
Amen.
Et Stéphane Moïsekis. Salut Stéphane.
Salut Thomas.
Allez Cénociné, épisode 70 et c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Silence, 24e long métrage de fiction pour l'ami Martin, qui nous raconte le voyage de deux jeunes prêtres portugais, Adam Driver, qu'on voit un peu partout en ce moment, et Andrew Garfield, qui récemment nous avait beaucoup enthousiasmé dans le dernier Gibson, on en avait parlé. Ces deux jeunes jésuites donc partent de Macao, protectorat portugais en Asie, pour le Japon, où ils espèrent retrouver le père Ferreira, alias Liam Neeson, qui selon la rumeur aurait abjuré sa foi, alors que le Japon est en pleine crise religieuse et que les chrétiens y sont vivement persécutés.
I pray, but I'm lost. Am I just praying to silence?
Nos deux amis et moi-même avons vu ce silence. Qu'en avez-vous pensé, Stéphane?
Alors, par où commencer?
Tu peux faire une blague sur le fait que j'ai dormi pendant le début du film, si tu veux.
Eh ben, écoute, tu l'as fait toi-même.
Non, mais je te voyais venir à 2 km.
Non. Par où commencer? C'est un peu compliqué parce que si. C'est quand même, je pense, un acte de foi de la part de Scorsese. C'est un film qui porte en lui depuis 25 ans, et même plus, je crois.
Au moins 25 ans, en tout cas.
Voilà, c'est aussi, comment dire, un film qu'il a mis très longtemps financièrement à monter et aussi à produire, parce que c'est un film qui a été tourné il y a 2 ans. Donc je pense que s'il y a 2 ans de post-prod sur le film, enfin au moins une bonne année et demie, connaissant Scorsese et sachant comment il fonctionne, parce que c'est quand même un mec qui tourne régulièrement et vite, oui. Ça a dû lui prendre du temps pour trouver le film dans la matière qu'il avait, quoi.
Sachant juste qu'il y avait aussi le montage, la post-prod du pilote de vinyle.
De vinyle en même temps, qu'il a réalisé aussi ses
propres productions.
Et du coup, en fait, voilà, c'est si tu le regardes sous l'angle de l'acte de foi, bah. Si t'es pas de la même foi, on va dire, que tu vas, comment dire, tu peux déguster, comme j'ai l'impression que ça a été un peu ton cas. Toi, pendant le film, quoi.
Moi qui suis bouddhiste.
Mais si t'es dans la foi du cinéma, c'est Scorsese, donc forcément, il y a des choses vraiment passionnantes, intéressantes, et notamment sur, la base du silence à proprement parler, en fait. Il faut savoir qu'aux États-Unis, dans le cinéma américain, le silence n'existe plus depuis vraiment très longtemps. On monte les décibels quoi qu'il arrive en fait pour avoir un fond sonore de peur en fait d'emmerder le public. C'est très rare en fait dans le film, mais il se le permet quand même vraiment à 0 décibel et dans des moments clés quoi. Et c'est là en fait où tu vois. Comment dire, son savoir-faire et la façon dont il arrive à sortir. C'est-à-dire que même si tu n'es pas forcément, comment dire, de confession catholique pour dire les choses
chrétien
clairement,
militant.
de militante, tu peux ressentir, je pense, le chemin de croix en fait des personnages, quoi, et notamment dans des moments clés, quoi. Et moi, je sais que la scène où il, on va pas spoiler ce que c'est exactement, mais la scène en fait où en gros il coupe vraiment le son et il joue avec toute la mise en scène là-dessus, c'est un moment extrêmement éprouvant pour moi. Et je pense que ça l'est justement parce qu'il a coupé le son, en fait, vraiment. Donc, dans ce calcul-là, le titre, il fait sens, en fait, à travers sa mise en scène. Quoi dire d'autre? C'est quelque part, en fait, par rapport à la thématique, c'est un film qu'on pourrait rapprocher de La Dernière Tentation du Christ, pour ceux qui ont vu le film, mais le truc, c'est que ça n'a absolument rien à voir avec La Dernière Tentation du Christ. C'est bien plus mesuré, bien plus ascétique. Là où La Dernière Tentation du Christ partait dans des mouvements de caméra complètement dingue.
C'est un film beaucoup plus nerveux.
Même. Ouais, et puis même, à la limite, parfois du psychédélique et comment dire, avec la musique de Peter Gabriel, donc très, très comment dire, mystique dans son approche.
Ça ne devrait pas créer de polémiques et de manifestations devant les cinémas.
Celui-là, non, et surtout non. Pas en France, je pense. Mais, ouais. bien l'inverse, peut-être au Japon, on verra, mais en France, encore que. Mais le truc, c'est que, voilà, c'est sur la même logique de foi, t'as l'impression que. Quelque part, un mec comme Scorsese, dont il faut quand même rappeler qu'il a voulu être prêtre dans sa jeunesse, qu'il a traversé d'énormes crises de mystique et de foi, en fait.
Et de drogue.
Voilà, t'as l'impression qu'il s'est plus ou moins trouvé à travers ce sujet-là et qu'il a voulu le mener à terme. Je pense que c'est plus compliqué que ce que je dis, hein. C'est pas aussi simple, quoi.
Non, bien sûr.
Comme toujours dans les histoires de foi et surtout les fois chrétiennes, quoi. Du coup, voilà, c'est difficile à recommander à tout le monde d'un point de vue thématique. D'un point de vue cinématographique, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Ça reste, encore une fois, ça reste Scorsese, quoi. Je veux dire, même moi, il y a des films que j'aime pas trop de Scorsese, comme Shutter Island, où tu peux pas dire que le film n'est pas beau visuellement, tu peux pas dire qu'il y a pas des vraies tentatives de d'exploration du langage. Moi, je suis un peu, je pense comme tout le monde, j'aime le Scorsese en fait, qui s'est façonné son propre langage cinématographique à lui, qui l'a puisé dans tous les cinémas qu'il aime, le film noir, les films de gangsters, ce truc-là, pour faire cette narration complètement dingue qui a été reprise par tout le monde dans Les Affranchis, par exemple. Voilà, donc c'est mon Scorsese préféré, c'est quand il fait ça en fait, c'est celui qui va très très loin dans son exploration de sa propre cinéphilie et qui la réintègre. Là, on est dans autre chose. On est dans le Scorsese qui déférent, quoi. Donc, voilà, c'est intéressant. C'est difficile. On en sort. Hein,
on l'a vu il y a quelques heures.
Ouais, voilà. Donc, c'est difficile un peu d'avoir du recul sur le film en soi. Et je le recommanderais pas à tous les fans de Scorsese. On va dire. Enfin, faut vraiment être vraiment, vraiment, vraiment fan de Scorsese pour voilà.
David.
Oui, pour moi aussi, je classerais plutôt dans les films de Scorsese. Où, en tout cas, j'ai pas une adhésion immédiate. D'une part, parce que ça fait partie de ces films en costume, et donc comme si le caractère historique du film dictait un tempo qui est particulièrement plus lent. Que son cinéma habituel, et en tout cas ses films de gangsters qui eux sont vraiment à l'image de son propre débit de parole d'ailleurs,
oui,
et qui ont
un
rythme et un effet narratif vraiment ultra rapide. Là on est sur quelque chose de beaucoup plus posé qui porte beaucoup sa narration.
Je trouvais que le début j'étais emporté par le truc.
Donc et il peut perdre des spectateurs y compris parmi les plus cinéphiles d'entre eux. Et puis voilà, il y a des narrations portées par une voix off qui lit des lettres écrites par des prêtres, donc qui ont un
au XVIIe siècle.
Au XVIIe siècle. Bon. Donc tous ces éléments font que voilà, c'est un film peut-être un peu difficile à appréhender, qui par ailleurs, comme ça se situe au Japon, et ça pour moi c'est un des aspects intéressants du film. Emmène la mise en scène de Scorsese dans un univers visuel différent, avec même un grain de photo un petit peu différent, qui par moment sur l'aspect côtier et brume rappelle un peu Shutter Island.
Les scènes en mer sont très belles, mais j'ai trouvé
le film est visuellement somptueux.
C'est Scorsese, voilà.
Mais voilà, après sur la question de la thématique, donc comme Stéphane le rappelait, donc effectivement Scorsese dans sa jeunesse a hésité entre une vocation de prêtre et une vocation de cinéaste, donc il a vraiment très sérieusement envisagé de devenir prêtre. Et je trouve que c'est quand même une thématique qui est présente dans beaucoup de ses films. On retrouve souvent des figures christiques ou des figures bibliques, y compris oui, comme dans des films comme Raging Bull, Taxi Driver, À tombeau ouvert, etc. Même dans Aviator. Donc c'est toujours quelque chose la religion et la foi catholique est quelque chose qui travaille son cinéma. Là c'est traité de manière très frontale et c'est traité de manière d'autant plus frontale que ce que le film raconte de manière pour le coup très répétitive et ça c'est une réussite du film, c'est d'arriver à mettre en scène de manière variée et intéressante quelque chose qui est répétitif, qui est un test de foi. Une des formes de mise en scène c'est de demander en fait à des chrétiens de marcher sur une figure du Christ pour prouver que en fait ils la renient et c'est quelque chose que Scorsese arrive à rendre extrêmement cinématographique. Il y a notamment une scène dans laquelle, une séquence assez longue dans laquelle Andrew Garfield est en prison et suit le passage de plusieurs personnages
à travers
les barreaux. Et cette scène, mais en termes de mise en scène, est vraiment extraordinaire. Il y a aussi l'utilisation du silence dont parlait Stéphane tout à l'heure. Et puis il y a aussi tout ce qui est, plein d'idées visuelles autour notamment des signes religieux qui vont pouvoir raconter des choses et qui vont pouvoir être intégrés dans les scènes et dans la mise en scène de manière très subtile.
Pas
toujours très subtil.
Le reflet dans la rivière avant qu'il se fasse arrêter, c'est quand même
où Andrew Garfield voit
en tout cas,
le reflet du Christ.
Je voulais pas forcément dire subtil, mais en tout cas de manière visuelle.
Ouais.
Et sans avoir à surligner par les dialogues et par le récit ce qu'il essaye de raconter. Cet aspect répétitif est quand même là. Et du coup, au bout de la 50e fois, on se demande si ce villageois va ou non abjurer sa foi et le personnage.
Ou trahir Andrew Garfield pour la 18e fois.
Ouais,
le mec qui trahit en permanence.
C'est quand même assez répétitif.
C'est répétitif, mais c'est intéressant aussi parce que c'est lié, je pense, aussi à une époque et une façon de voir la religion. Moi, ce que je trouve. C'est-à-dire, si on met de côté, encore une fois, la thématique spécifique et ce que le personnage refuse de renoncer, c'est-à-dire sa propre foi chrétienne, le truc, c'est qu'on peut être touché par cette façon de pas du tout vouloir renoncer à ce en quoi on croit.
De ne pas renier, ce qu'on est.
Surtout quand on aime le cinéma, en fait, il y a une manière assez simple de regarder ce film, c'est d'imaginer qu'au lieu de la foi catholique, c'est la foi dans le cinéma. Et d'ailleurs, dans l'esprit de Scorsese, évidemment, le
c'est
parallèle.
La même chose, puisque le choix, il l'a fait, comme tu l'as précisé, c'était le choix de carrière, et c'est fait, et je pense qu'il s'y retrouvait dans les deux sens. Quoi. Mais le truc, c'est que.
Il y a quand même la dédicace à la fin du film qui appuie très lourdement le message, moi je trouve.
C'est pas que ça l'appuie lourdement, c'est que c'est clair.
Oui,
en fait,
c'est-à-dire
que si tu te posais les questions sur de quel bord en fait il se positionnait, tu ne t'en poses plus à la fin. Mais à la limite, bon, ça, c'est comment dire, c'est le film d'un homme qui a 70 ans, qui a passé sa vie à traiter cette thématique à la fois dans d'autres films de cinéma et dans un film comme celui-là qui est plus spécifique, quoi. Et je pense que quand tu sais ce qu'il a traversé et quand tu sais où il en est aujourd'hui, c'est pas étonnant, quoi. Mais il y a cette logique de dire, un peu comme Gangs of New York à l'époque, un peu comme même après, une fois qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas les films, c'est des films qu'il a tenus jusqu'au bout, en fait. Et même un mec comme Scorsese, qui est quand même censé être le réalisateur des réalisateurs, je traduis l'expression américaine, quoi. Même lui, en fait, a besoin de l'acteur un peu, bankable du moment, qui est Andrew Garfield, comme c'était Leonardo DiCaprio à l'époque de Gangs of New York, parce que le faire tout simplement avec avec un De Niro, ça suffisait plus, en fait. Donc c'est un mec qui a gardé ses projets.
En revanche, moi, c'est un des gros problèmes que j'ai avec le film. On va croire que c'est de l'acharnement
si tu détestes
de ma part contre Andrew Garfield.
C'est bien.
mais là pour moi il est encore pire que ce que je croyais. Enfin, en fait j'aime vraiment pas du tout cet acteur qui est pour moi une sorte de Hayden Christensen raté quoi. Ouais.
Hayden Christensen réussi ça pourrait même toi on déjà, comprendrait qu'il y a un problème mais
c'est pas sympa déjà.
Moi j'ai un problème avec lui aussi de manière générale, je l'aime bien dans Social Network mais bon, je pense que quand tu fais 75 prises par plan forcément au bout d'un moment t'es bien avec Fincher quoi
et dans Gibson, moi je trouvais qu'il s'en sortait
très
Gibson,
très bien. Je trouve très j'aime beaucoup le film de Mel Gibson mais je le trouve très unilatéral et très basique en fait dans son il y a des moments où j'ai l'impression de regarder Forrest Gump dans le film de Mel Gibson par moment, ce qui me pose un peu problème. Là je le trouve au contraire plus subtil sauf les moments où il faut crier. C'est surtout ces moments-là où je trouve un peu plus voilà. Mais non, le cast pour moi il faut noter aussi qu'il y a Shinya Tsukamoto, le réalisateur qui jouait dans ses propres films, dans Tokyo Office et tout ça. Et c'est intéressant de la part d'un cinéaste aussi cinéphile que Scorsese d'aller chercher ce réalisateur-là pour jouer dans son film, quoi. Surtout que moi, je trouve que le rôle, pour le coup, pareil, est assez touchant, même s'il est, enfin, en tout cas, il a dû faire une très belle scène, justement, dans les scènes côtières dont tu parlais.
Japonais qui se sacrifie plus ou moins, enfin qui devient martyr.
Ouais, tu spoiles tout. Non mais la scène est assez belle.
Et il y a cet acteur complètement fou. Alors j'ai pas son nom sous la main, mais qui joue l'inquisiteur en chef japonais, qui a une voix très étrange, qui a un physique très étrange et qui en joue beaucoup d'ailleurs, qui fait des mimiques on est quasiment dans la pantomime. Enfin c'est vraiment, moi je l'ai trouvé formidable ce type-là. Il était vraiment très étonnant. Il rajoute peut-être presque une légèreté au faire un film qui est très très lourd pour le coup, très pesant.
Je pense qu'il n'y a pas de raison que ça soit léger. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune
raison. Non, il n'y a aucune raison de se léger. Mais il fait passer le personnage de manière plus subtile qu'il n'aurait pu l'être.
C'est-à-dire qu'il
est menaçant, méchant
couleur,
et tout ça, mais
dire,
il lui donne une tonalité
termes,
très très une tonalité très intéressante.
Cinéma.
Hein?
Oui. Ouais, il donne une autre couleur au film.
Oui, c'est ça. Plutôt de maillot.
Non, mais je suis d'accord. En plus, c'est vrai que il est très bien, quoi. Mais c'est vrai que je n'ai pas son nom non plus sous la main. Donc on est bien, on est fait.
On est
merci
super,
d'avoir ramené le sujet.
D'avoir montré qu'on était
complètement parfait. On était parfait jusque là, et puis d'un seul coup, t'as saboté l'émission. Voilà, tout c'est terminé, quoi.
On l'a refait. Coupé.
Non mais oui, enfin le truc après c'est que voilà, c'est effectivement tu peux relier la foi en fait de Scorsese dans la foi du cinéma aussi, c'est ça que je voulais dire par rapport encore une fois à tous ces projets en fait qu'il maintient et qu'il lâche pas. Il y a dans une autre mesure, il y a un mec comme Terry Gilliam qui a cette logique avec Don Quichotte qui vient de prendre un coup encore si je dis pas de bêtises parce qu'il y a John Hurt qui devait jouer le rôle principal et qui est mort en fait, donc du coup c'est un nouveau coup bas pour malheureusement pour son projet quoi, mais il y a cette foi en fait, cette notion de coûte que coûte de maintenir le ce en quoi on croit
qui se retrouve dans l'histoire même du film de l'émission, un
exactement
film qu'il a porté pendant 25
voilà,
ans voilà.
Donc du coup il y a quelque part tu peut pas lui enlever que si tu te mets à la place de Martin Scorsese, c'était le film qu'il fallait faire, quoi.
Ouais, et de toute façon, enfin, pour moi, il y aura deux publics à ce film. C'est en tout cas en France, d'une part les gens qui vont voir dans le film aussi une manière de soutenir et de s'intéresser à la cause des chrétiens d'Orient en ce moment, qui pareil, enfin,
ou des Rohingyas
peuvent se retrouver dans des difficultés similaires à ce qui est raconté dans le film, et les cinéphiles qui verront au-delà de cette preuve de foi rapport au cinéma.
Je pense que les cinéphiles vont moins y aller en fait, parce que il y a un peu le même problème. Scorsese, ça fait 40 ans qu'il est placé sur l'autel des grands cinéastes, et le truc c'est qu'un film comme Kundun par exemple, sur lequel on l'attend absolument pas forcément, c'est un film qui a pas du tout marché nulle part dans le monde, et y compris en France, quoi. Après moi, Kundun, ça fait partie de ses gros ratés dans la filmo de Scorsese, donc je peux comprendre en fait la logique, mais toujours est-il que c'est encore un cinéaste qui s'essaye à tellement de genres et tellement de choses différentes de par sa propre cinéphilie que tu peux pas lui enlever la tentative en fait. Et là, je pense que c'est encore différent. Je pense qu'il se met vraiment dans une... Enfin, il se met dans un truc qu'il avait vraiment besoin de raconter, contrairement à Kundun pour le coup. Donc c'est là où c'est très difficile pour moi d'être... Enfin, je peux partir dans le ressenti subjectif, dire que c'est trop long ou ce qu'on veut, etc., etc. Mais objectivement, c'est évident que quelque part, c'est un film qui restera dans la filmo de Scorsese parce que justement, il avait besoin. Et de la même manière, même si on considère que, je sais qu'il y a pas beaucoup de gens qui considèrent que Guns of New York est raté. Moi, j'adore, mais de cette manière-là, c'est un peu même. Et il y a cette espèce de figure aussi. D'ailleurs, il y a une corrélation entre les deux films parce que t'as Liam Neeson qui joue cette figure, cette grande figure patriarcale en fait dans le film, qui est comment dire, jamais désacralisé plus ou moins dans Gangs of New York. Et là, bon, il y a d'autres
enjeux.
D'autres enjeux, voilà. Donc c'est assez intéressant qu'ils reprennent le même acteur pas un rôle similaire, mais un rôle qui pourrait poser plus ou moins les mêmes problématiques au personnage principal.
Il y a un aspect du film où, en tout cas, moi, j'ai, quand tu disais le fait d'explorer une partie de la cinéphilie de Scorsese, moi, j'ai pas trop identifié ou j'ai pas retrouvé. Tant que ça, alors que je m'y attendais d'influence de cinéaste japonais dans
Il y a un peu de Kobayashi quand même. Il y a une quand même justement dans ce.
Je m'attendais à voir plus de Kurosawa, des scènes de plus de foule, des choses.
Je pense que ça rentre pas tellement dans le sujet en fait. C'est qu'en fait il montre aussi un Japon. Enfin, c'est-à-dire que le Japon qui est montré dans le film à de très rares moments. Le Japon, on va dire. Je mets les guillemets là-dessus, folklorique, qu'on peut connaître nous en tant qu'occidentaux, on le retrouve à deux trois moments clés en fait, et c'est les moments de foule dont tu parles.
C'est les moments en ville, voilà. En fait, Nagasaki, on est beaucoup dans les rues, sur les côtes,
et les villages, dans la forêt, les îles. Et le reste, en fait, il y a cette logique de relecture du christianisme à travers justement leur culture à eux. Qui fait que effectivement, je pense que c'est difficile d'aller citer des Kurosawa ou des mecs comme ça dans ce film-là, quoi. Mais dans la gestion du rythme et ce genre de choses, des cadres et tout ça, j'ai l'impression qu'on retrouve un peu de Kobayashi et ce genre de cinéaste, quoi. Et voilà. Enfin, je pense qu'il y a je pense qu'il a un peu ça, mais c'est surtout encore une fois, je pense que là, il était vraiment porté par les thématiques plus que par le cinéma à proprement parler. Ce qui est pas forcément le cas dans Kundun, par exemple.
J'ai retrouvé le nom de fameux acteur dont je parlais tout à l'heure, qui joue l'inquisiteur dans le film, c'est Issei Ogata. Voilà, comme ça, on est complet jusqu'au bout. À suivre,
on n'est pas
tout jeune, hein, j'ai l'impression, mais on n'est pas ridicule, en tout cas pas complètement. Voilà. Pas jusqu'au bout. Avant de se quitter, messieurs, on va prendre quand même quelques instants pour une paire de recommandations. Comme d'habitude, on peut rester dans l'univers de Scorsese. D'ailleurs, il y a plein de choses à en dire, mais c'est pas obligé, évidemment. Stéphane.
Bah alors, je vais pas citer un Scorsese hein, parce que c'est pas grand chose. J'ai peut-être cité c'est assez connu hein, mais ça date un peu maintenant, ça a une vingtaine d'années. Un documentaire, moi je l'avais vu sur Arte à l'époque, qui s'appelle Le Voyage de Martin Scorsese à travers le cinéma américain. J'en avais fait un sur le cinéma italien aussi. Je sais plus si c'était avant ou après. Il me semble que c'était le cinéma américain d'abord et le cinéma italien après.
C'est disponible, ça existe en DVD. En tout cas, ça a été publié.
Ouais, ça a été édité. Voilà, c'est un documentaire sur sa propre cinéphilie en fait. Et parce que c'est un truc qui a été plus ou moins mis de côté pendant longtemps dans sa carrière, parce que je pense que lui-même, en fait, il s'est longtemps cherché en tant que cinéaste, quoi. Et je pense que c'est à l'arrivée des Affranchis et ce genre de films qu'il a vraiment commencé à trouver sa... C'est-à-dire même, encore une fois, je parle pas de qualité, hein, puisqu'il avait fait des très grands films auparavant, mais je parle vraiment du moment où il a trouvé ce qui a fait sa spécificité en tant que cinéaste aux yeux de tous, quoi. Et que d'un seul coup, en fait, il pouvait faire ressortir sa cinéphilie. Et donc, à travers ce documentaire-là, c'est ce qu'il fait. C'est assez long, hein, je crois. Ça dure 5h30.
Ouais, c'est ça. C'est une série documentaire à la base.
Et moi, je me l'étais tapé d'une traite. Donc, voilà. Mais dans mon souvenir, c'est assez vraiment passionnant. Ouais.
Et celui sur le cinéma italien aussi.
Ouais. Et voilà. Donc, le truc, c'est que c'est Marocco pour.
Excellent troco.
C'est passionnant. D'ailleurs, il y a une grosse section sur la comédie musicale et en particulier sur le travail de Minnelli. Et si vous êtes intéressé au genre avec La La Land, ça vaut le coup d'aller explorer
un peu. Parce que c'est une vraie comédie musicale.
Si vous êtes intéressé au genre de la comédie musicale avec La La Land, c'est que vous vous intéressez pas à la comédie musicale. En fait.
T'étais pas là pour l'émission. On va pas la refaire maintenant.
En tout cas, ça a pu amener toute une génération et il y a vraiment des trésors à découvrir. Et Scorsese en fait un exégèse passionnant. Moi, je vais recommander une vidéo de la série Every Frame a Painting par un jeune Canadien qui s'appelle Tony Zhu. Le nom de la vidéo, c'est Martin Scorsese, The Art of Silence. Et ça tombe à point, il l'avait réalisé en 2014, je crois, cette vidéo, pour justement raconter le type de séquence dont on a parlé plus tôt avec Stéphane, c'est-à-dire ce moment où en gros on coupe le son, ou en tout cas on crée une forme de silence qui n'est pas forcément toujours un silence technique, mais qui est perçu comme un silence. Et il raconte comment Scorsese en particulier l'utilise... dans ces films, il y a une séquence mémorable dans Raging Bull qui donne l'impression que le boxeur est un peu sonné quand d'un coup le bruit de la foule s'éteint. Et c'est vraiment une des scènes les plus fortes de silence. Du film.
Pas de silence, le film.
et ça vaut le coup de regarder cette vidéo excellente pour comprendre comment fonctionne le cinéma.
C'est parfait, ça me va très bien, notre temps est écoulé. Merci à tous les deux, merci à Jules à la technique, merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Info à retrouver aussi sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio. N'hésitez pas, si vous utilisez iTunes pour nous écouter, à mettre une bonne note, 5 étoiles sinon rien à ce formidable podcast, c'est toujours appréciable et apprécié. Et en attendant tout ça, on vous dit à très vite.
Salut, c'est Mehdi Maizy, retrouvez nos fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans nos fun.